Il fait un peu figure de cas à part dans le monde de l'information et sa place dans les médias généralistes est souvent très discrète. Il s'agit donc du journaliste scientifique à cheval entre le milieu scientifique et médiatique. Le travail acrobatique du journaliste scientifique consiste donc à transmettre au public non spécialiste, la plupart du temps, des notions parfois très complexes. Qui sont ces professionnels que vous entendez tous les jours, par exemple, dans La Tête au Carré? Quelles sont les infos scientifiques qui sont plus ou moins exposées dans les médias? Et quel est le rôle d'un journaliste scientifique face à des sujets qui suscitent la controverse? On en parle avec mes invités dans un instant. À la une de la science aujourd'hui, on a retrouvé le petit robot Philae. Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous les collègues qui sont dans le plateau. Depuis son atterrissage chaotique en 2014 sur la comète Chury, les scientifiques de l'ESA cherchent Philae. Deux nouvelles photos prises vendredi par la sonde Rosetta ont permis de l'identifier enfin. On y revient dans un instant à la une.
Et puis comme tous les mardis, nous retrouverons la chronique de Science Improbable de Pierre Barthélémy avec nos confrères du Monde. C'est Stéphanie Texier qui réalise cette émission préparée par Lucie Sarfati avec Mahmoud Mebarek.
La Tête au Carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Et comment travaillent les journalistes scientifiques? Question posée donc aujourd'hui dans le dossier de l'émission avec mes invités Sophie Becherel pour France Inter, Cyril Van Lerberg pour Le Figaro, Daniel Schneiderman pour Arrêt sur Image et Fabrice Papillon, producteur de documentaires. Bonjour à tous les quatre.
Bonjour. Bonjour.
Sophie Becherel, quelle est la place de la science au sein de la rédaction de France Inter?
Quelle question piège pour démarrer. Elle n'est pas si mal représentée, objectivement. Peut-être parce que je suis un peu une dinosaure dans cette rédaction, c'est-à-dire là depuis très longtemps. Mais aussi parce qu'il y a des présentateurs de journaux d'information qui ont une vraie appétence pour les informations scientifiques. Donc on vit plutôt une époque favorable.
Bon, même question pour les pages du Figaro, Cyril Van Lerberg. Oui, vous êtes plutôt bien servi?
Oui, moi je me sens privilégié. Et voilà, on est présent sur le web avec des rubriques en sciences, environnement et santé. Et surtout depuis... presque 25 ans, une page science et médecine tous les matins dans le Figaro, le quotidien papier.
Bon, on n'a que des gens heureux et satisfaits, visiblement. Fabrice Papillon, quelles sont les relations entre les scientifiques français et les journalistes?
Elles sont plutôt bonnes, en tout cas, et on se regarde parfois en chien de faïence, on s'observe, on se hume, et puis de temps en temps, on travaille ensemble, on est très heureux de le faire en général. J'ai très peu de cas d'échecs ou de difficultés. En général, quand on veut, on peut.
Vous formez, en tout cas, des scientifiques à ce qu'on appelle la vulgarisation,
aussi,
pour pouvoir communiquer.
Absolument.
Daniel Schneiderman, dans votre émission Arrêt sur Image, c'est la médiatisation de l'exploration spatiale qui vous a intéressé en particulier. Pourquoi ce sujet?
Bah parce que c'était l'actualité, puisqu'on venait de découvrir une exoplanète de plus. Voilà, en plus, il y avait eu la fin de cette expérience de la NASA où des gens étaient restés enfermés pendant un an pour essayer de
simuler la vie,
d'anticiper la vie dans une expédition martienne. Donc on s'est dit, voilà, c'est l'occasion, à travers la médiatisation de l'exploration spatiale, d'essayer de tirer des conclusions générales sur la médiatisation des sciences.
Voilà votre émission qu'on peut voir actuellement en ligne et nous sommes en partenariat cette semaine. Allez, on se retrouve dans un instant avec les questions des auditeurs qui nous rejoignent donc sur ce thème du journalisme scientifique sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Et depuis son atterrissage chaotique en novembre 2014, le robot Philae était introuvable sur la comète Chury.
Philae rebondit une fois, puis deux, avant de se poser de travers dans un trou, loin de l'endroit prévu.
Il doit être quelque part dans cette zone, peut-être sur la paroi de ce cratère, ce qui pourrait expliquer son orientation et sa position bizarre, pas très évidente.
Mais cette fois, ça y est, il aura fallu donc attendre 2 ans pour obtenir la photo de Philae et donc connaître sa position exacte sur la comète. C'est un cliché impressionnant, important d'ailleurs à bien des égards, révélé hier par l'ESA et que vous commentez avec nous, Philippe Godon. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef du projet Rosetta pour le CNES et vous êtes à Toulouse. Oui. Racontez-nous un petit peu comment s'est passée la découverte de cette photo dans les locaux du CNES. Vous traquiez Philae depuis quand même longtemps.
Oui, ça faisait quelques mois en fait qu'on faisait des prises de vue régulières de la zone, même de plusieurs zones, parce qu'au fur et à mesure qu'on regardait la surface, on identifiait plusieurs endroits possibles. Mais nous, à Toulouse, nous étions convaincus au CNES qu'on était sur le bon Philae à cet endroit-là. Donc la plupart des images faites pendant ces derniers mois l'étaient sur cette zone-là. Mmh. Et là, pour la première fois, on était à 2,7 km d'altitude, donc à une distance suffisante, une résolution de 7-8 cm pour l'image, qui permettent de distinguer à l'intérieur de Philae ses différentes composantes. Mmh. Donc on est sûr du résultat.
Et cette photo, Axel, on peut la voir sur le site de la Tête au Carré en ce moment même.
Elle est très belle en haute qualité sur le site du CNES. Alors ce sera peut-être la seule photo de Philae. Pourquoi elle était si importante à obtenir ?
Eh bien, on n'aurait pas voulu rester dans l'incertitude. On espérait faire cette photo déjà en mars 2015 par un survol extrêmement rapproché de la zone. Ça n'a pas pu se faire. Et après, en mars 2016, jusqu'en mars 2016, on était très haut en altitude. Et là, maintenant, on s'approchait de la fin de la mission. Hein, elle a lieu le 30 septembre. Donc, l'instrument Osiris et sa caméra NAC n'aurait plus été là pour faire cette prise de vue. Donc il était très important de la faire avant la fin de la mission. Et en plus, non seulement elle valide, elle confirme tous les calculs que nous avions faits ici au CNES, à l'aide de tous les instruments scientifiques, ROMAP, CONCERT, etc., avec en particulier les apports du laboratoire d'astrophysique de Marseille, le traitement d'images, etc. Et il était fondamental qu'on puisse détecter alors non seulement la localisation, mais l'orientation de Philae sur le sol de la comète. Ça va pouvoir même valider certains résultats scientifiques, comme ceux de CONCERT qui voient l'intérieur de la comète. Ils avaient besoin d'une certitude sur la localisation de l'atterrissage. ROMAP, le magnétisme, une confirmation de l'orientation de Philae. Et pour nous, ça confirme totalement nos logiciels. Quoi.
Mais justement, elle est dans quelle position ? Parce que quand on voit la photo, on a du mal à imaginer qu'elle ait fait de la science dans cette position-là.
Eh bien, heureusement, à bord, on avait une pile qui a permis de faire fonctionner Philae durant 3 jours de façon continue. Et ça, on pouvait se retrouver de nuit dans n'importe quelle configuration, quasiment, on pouvait faire de la science avec. Malgré tout, on a un petit échec, si on peut dire, sur 2 instruments. La foreuse qui a foré dans le vide, malheureusement, et APXS qui avait besoin de toucher le sol pour pouvoir faire de la science, ce qui n'a pas été le cas, à cause de cette position d'un Philae couché sur le côté.
Est-ce que grâce à cette photo, Philippe Godon, on va pouvoir avoir de nouvelles informations justement autour de Philae, autour de la comète ?
Pas vraiment, on va pouvoir mieux exploiter les résultats qu'on a déjà. Mais on va pas pouvoir, à cause de ça ou grâce à ça, rallumer Philae ou non. Malheureusement, la mission était bien à son terme là. On n'a pas de nouvel espoir.
La science maintenant, c'est Rosetta qui va terminer de la faire pendant encore un mois. Qu'est-ce qui va se passer pour elle avant le crash, on va dire, à la fin du mois ?
Alors, elle va aller sur une orbite elliptique, contrairement aux orbites précédentes qui étaient des orbites circulaires à 10, 20, 30 km d'altitude. Là, pour se rapprocher, on se met sur des orbites elliptiques dont le périastre, la zone la plus proche du sol, se trouve à 5, 3 km d'altitude, 2, 1. Donc, tout en garantissant la sécurité de Rosetta, on va approcher ce périastre de la surface pour faire des images et pour récupérer des données le plus proche possible du sol de la comète. Et puis, dans la dernière semaine avant le 30 septembre, on va la faire remonter sur une orbite de préparation à l'atterrissage, vers 10 km d'altitude, et 6 heures avant le fameux atterrissage ou contact avec le sol, on va freiner la sonde pour lui donner une orbite d'intersection avec le sol de la comète.
Voilà, donc on a enfin cette photo de ce robot pour lequel on s'était pris d'affection, hein, Daniel Schneiderman. Ça vous intéresse, vous, ça, justement, hein, vous en avez parlé dans Arrêt sur image, la personnalisation des robots.
Oui, ça a d'ailleurs été un des moments les plus intenses de cette émission. On s'est posé la question. C'est vrai qu'au moment où Philae est arrivé sur sa comète, on a eu une flopée de sujets, nous la transformant en doudou, en mascotte. Voilà, elle s'était endormie, elle s'était réveillée. Est-ce qu'elle allait se rendormir ? Est-ce qu'elle avait froid ? Est-ce qu'elle avait faim ? Est-ce qu'elle avait chaud ? Alors bon, on voit bien d'un côté, sans doute que les journalistes s'imaginent qu'il faut ça pour y intéresser le grand public. Ouais. Et ça marche. Enfin, je veux dire, il y a incontestablement une fraction du public.
Stéphanie Texier me rappelle dans le casque que Philae, c'est le nom que François Hollande a donné à son chien, d'ailleurs.
A posteriori,
c'est ça.
Merci de ce complément politique. Bon, mais d'un autre côté, je veux dire, c'est une des questions qu'on s'est posées dans l'émission et sur laquelle peut-être on va revenir. La question, c'est est-ce qu'il faut parler, est-ce que les médias doivent parler de la science comme on parle à des enfants?
Ouais,
je veux dire, des enfants qu'il faut faire rêver, qu'il faut bercer, à qui il faut raconter des belles histoires avec des personnages trop touchants.
Ouais.
Ou est-ce qu'on peut pas essayer de temps en temps de leur parler comme à des adultes?
Bon,
quoi.
Cyril,
ce qui m'amuse, c'est que là, dans ce cas-là, la personnification de Philae, c'est l'Agence spatiale européenne qui l'a mise en place, en fait. Et c'est une stratégie de com qui est
bien sûr.
Vraiment, qui a marché parfaitement. Et donc, on s'est pris en offrir là-dedans, mais ils ont fait un virage incroyable. Ouais. Ils ont réfléchi à l'avance.
Avec un film d'animation, d'ailleurs, qu'on a passé dans l'émission, qui est vraiment
qui est émouvant, qui est
très, très émouvant.
Qui est drôle, qui est réussi.
Sophie Bécherel, vous avez fait un sujet, justement, sur cette photo de Philae. Ça a été facile de proposer ce sujet à la rédaction.
Mais Philae, c'est un vrai feuilleton, vous imaginez bien.
Voilà.
C'est merveilleux. Il y avait des
rebondissements. C'est la suite de la
saga. Oui, complètement. Voilà. Mais ceci dit, Daniel Schneiderman se posait la question, est-ce qu'il faut raconter une histoire? En l'occurrence, les sondes spatiales, ce sont de merveilleuses histoires. Il y a quand même des types qui bossent là-dessus pendant 20 ans, qui un jour voit enfin éclore ou naître la mission, le bébé qui arrive sur sa cible.
Et le bébé.
Non, mais oui, voilà. Parce qu'il y a une très longue gestation. Parce qu'il y a une très longue gestation. On peut, voilà, ouais. C'est une image, ouais. Et c'est une comparaison, d'accord. Mais je trouve que l'histoire, elle est naturellement dans les programmes spatiaux, elle existe naturellement.
Oui, mais j'ai envie de dire, pardonnez-moi, c'est un réservoir inépuisable de très belles histoires.
On va en parler, Daniel, hein, parce qu'on commence l'émission là déjà. On va juste saluer Philippe Godon, Axel, un petit mot pour terminer.
Je vais dire un tout petit mot. On personnifie les robots en général. En ce moment, pas que ceux qui vont dans l'espace. Voilà.
Allez, on peut voir cette émission en tout cas, Arrêt sur Mars, on aura l'occasion d'en reparler. Et puis en attendant, merci à vous, Philippe Godon, pour ces explications. Bonne journée
merci,
à Toulouse.
Au revoir.
Au revoir. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, on vient de l'apprendre par nos confrères d'ailleurs du Figaro, le décès d'Isabelle Dinoir, la première greffée du visage. Elle est décédée cet été. Elle avait été la première patiente au monde à bénéficier d'une greffe de la face en 2005. Elle avait été privée de visage après avoir été attaquée par son chien. Vous vous en souvenez, elle avait donc reçu une greffe partielle en 2005. Au Brésil, des chercheurs sont en train de développer un vaccin contre la dépendance à la cocaïne. Le but est de diminuer l'effet euphorisant de la drogue pour conduire l'utilisateur à perdre l'intérêt pour la cocaïne. Le principe testé pour le moment sur l'animal consiste à stimuler la production d'anticorps piégeant la cocaïne afin de l'empêcher d'atteindre le cerveau. Selon l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, la consommation de cocaïne au Brésil est 4 fois supérieure à celle de la moyenne mondiale. Et puis enfin, le panda géant n'est plus une espèce en danger. Ce dimanche, l'UICN, l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature, a publié une mise à jour de sa célèbre liste rouge des espèces menacées. Et bonne nouvelle, donc le panda géant, emblème de la conservation de la faune, est considéré comme une espèce en danger depuis 1990, fait désormais partie de la catégorie vulnérable. On dénombre aujourd'hui 1864 pandas géants adultes, soit presque 2 fois plus que dans les années 80. La discussion a déjà commencé sur le journalisme scientifique. C'est le dossier de la tête au carré dans un instant. Vos messages, franceinter.fr. Et sur Twitter, avec le mot-clé « l'attaque ». I'm not afraid to for Lashes, Sunday Love à l'instant.
La tête au carré, jusqu'à 15h. Sur France Inter.
Allez, qui sont les journalistes scientifiques? Comment travaillent-ils au sein des médias généralistes? Dossier de la tête au carré cet après-midi avec mes invités pour en discuter. Sophie Bécherel, donc vous êtes journaliste scientifique à France Inter. Cyril Van Lerberg, vous êtes rédacteur en chef sciences et médecine au Figaro et ex-président de l'association des journalistes scientifiques. Daniel Schneiderman, vous êtes journaliste spécialisé dans l'analyse des images télévisuelles. Vous présentez Arrêt sur image que l'on retrouve chaque semaine désormais donc sur Internet. Avec laquelle donc nous sommes en partenariat cette semaine autour de votre émission sur la médiatisation de l'exploration spatiale. Et puis Fabrice Papillon, vous êtes producteur de documentaires et vous formez des scientifiques du CNRS justement pour apprendre à mieux communiquer leurs travaux auprès des scientifiques. Les auditeurs nous rejoignent déjà avec des questions et des messages. Tiens, ben, je vous donne déjà la première question de Jacques qui nous dit: quel est le meilleur profil du journaliste scientifique finalement? Est-ce que c'est un scientifique de formation qui apprend à vulgariser ou un néophyte passionné dont la curiosité insatiable lui permet de se former aux différents savoirs scientifique. Alors, qui veut répondre à cette question? Cyril Van Lerberg?
Moi, je crois que la vraie qualité, c'est d'être curieux. Après, le reste, c'est les détails. Et ça,
faut être un peu journaliste quand même à la base.
Oui, mais le journaliste, ça s'apprend. La curiosité, c'est pas quelque chose qu'on apprend. Hein.
Et c'est particulier au journalisme scientifique, selon vous?
Je trouve, oui, parce qu'on est, dans un domaine qui est très ouvert, un domaine qui est large, qui est changeant, dans lequel on a pas de certitude. Et qu'un domaine qui est finalement en construction permanente, et dans lequel il faut avoir cet appétit pour la nouveauté, et essayer de comprendre les choses.
Fabrice Papillon.
Moi, j'observe une sorte de schisme. Les journalistes scientifiques dans les médias généralistes sont très souvent d'abord journalistes, et ce sont ensuite, c'est mon cas, et je crois qu'on est plusieurs autour de cette table, se sont ensuite tournés vers la science par goût, par plaisir, par opportunité, etc. Alors que dans les médias spécialisés et dans d'autres contextes, c'est très souvent le contraire. On trouve beaucoup de scientifiques de formation, parfois très haut niveau, des docteurs, etc., et qui se sont ensuite intéressés à la vulgarisation scientifique. Et ça, on l'observe auprès des patrons de médias, souvent, qui vous disent: on veut d'abord des bons journalistes qui savent raconter des histoires, et surtout pas des scientifiques qui parlent avec ce jargon compliqué qui nous fait peur et qui risquerait finalement d'être plus compliqué qu'autre chose.
Sophie Bécherel.
Oui, les deux profils existent. C'est vrai que dans un média très généraliste, on va, comme le disait Cyril, aborder plein de disciplines. Si vous êtes physicien ou astrophysicien de formation, docteur, comme le disait Fabrice, et qu'on vous embauche pour tenir cette rubrique-là dans un journal spécialisé, vous allez être forcément plus compétent, on va dire, qu'un généraliste qui aura tout le travail d'apprentissage à faire.
Vous traitez, alors Cyril et Sophie, tous les sujets de science sans distinction?
Sauf la médecine. Et avant, je ne faisais pas de l'environnement et maintenant je suis amenée à faire de plus en plus d'environnement. Mais à France Inter, il y a deux journalistes pour s'occuper de la médecine.
Ouais. Cyril Van Lerberg.
Oui, je fais de la physique, de l'astrophysique, de la biologie, et puis je fais de la médecine depuis peu de temps parce que ça m'intéresse. Et que voilà.
On parlera de la formation justement des journalistes plus spécifiquement dans ce domaine. Daniel Schneiderman, vous qui êtes un observateur justement du monde des médias, quel est le profil type alors du journaliste scientifique selon vous?
Il y a les deux, hein. Voilà, il y a les deux profils dont vous avez parlé, le journaliste de base qui fait de la science et le scientifique qui fait du journalisme. Je pense que tout est cas d'espèce. Il y a des bons professionnels dans chacun des deux profils. Alors, je suis pas neutre là-dedans, puisque moi-même, je suis pas scientifique, je suis journaliste. Donc, étant journaliste et ayant commencé ma carrière dans un service d'information générale, qui, par définition, est un service où on est amené à traiter tous les sujets et où la première qualité est la polyvalence, j'ai envie de vous dire que, contrairement peut-être à l'idée reçue, je pense que le traiter de questions scientifiques n'est pas forcément beaucoup plus compliqué que de traiter d'autres sujets qui nécessitent aussi un certain background, une certaine connaissance, une certaine culture. Vous voyez, est-ce que c'est plus compliqué que de parler d'économie, de questions monétaires? Je suis pas sûr. Est-ce que c'est plus compliqué que de traiter de questions diplomatiques, de pays lointains? Je suis pas sûr non plus. Enfin, je veux dire, tout ça nécessite à la fois de savoir, raconter des histoires et de savoir synthétiser un savoir complexe, mais pas plus complexe forcément là que dans d'autres domaines.
Alors, Axel Villard, qui sort d'ailleurs, Axel, on peut le dire, pour le coup, d'une école de journalisme et qui est le seul journaliste scientifique de la tête au carré.
Exactement. Voilà. Mais je rajouterais quelque chose qui est que un journaliste de formation basique a une bonne connaissance générale de la politique, de la géographie, de l'histoire, mais pas forcément de la science. Et donc, c'est cette affinité avec la logique scientifique et le monde scientifique qui, parfois, je pense, manque aux journalistes de formation.
Mais alors ça, c'est un problème d'école. Moi, je me souviens que dans l'école que j'ai faite, le CFJ à Paris, alors je vous parle là de 1979, Je veux dire, on n'a eu aucune, tout au long de la scolarité, on n'a eu aucune formation spécifique scientifique. Que dalle. Et si je me souviens bien, je ne voudrais pas dire de bêtises, le profil de la promo dans laquelle j'étais, c'était des gens qui avaient fait des lettres avant, hein, parce qu'il fallait une licence avant d'entrer, donc ils avaient fait des lettres, ou ils avaient fait de l'histoire, ils avaient beaucoup fait Sciences Po. Je ne pense pas qu'il y en ait un seul qui avait fait des études scientifiques.
Ça n'a pas changé du tout.
Ouais. Ça va.
99,9% des étudiants qui rentrent dans une école de journalisme, comme le CFJ ou l'ESJ à Lille, sont littéraires. Ou Sciences Po tard, comme on dit. Et puis, pour les scientifiques, il faut aller à la formation d'à côté, journaliste et scientifique, par exemple, à l'ESJ Lille. Il y en a d'autres. Et eux sont scientifiques.
Fabrice nous dit sur franceinter.fr, a priori, il me semble qu'un scientifique doute souvent beaucoup plus qu'un journaliste qui se doit de présenter un fait concret en quelques mots, en quelques lignes. N'est-ce pas un problème pour un titre de journal ou un flash radiophonique de vouloir réduire un sujet complexe à une phrase souvent affirmative?
C'est oui, toute la difficulté. Le conflit au Proche-Orient, on en fait toujours une minute, pas beaucoup plus que ouais. les neutrinos, hein, ouais. si vous voulez.
Alors, donc, c'est ça,
mais oui, non, mais bien sûr que aborder un problème complexe, évidemment, ouais. aborder un problème complexe dans un format court, ouais. c'est ça toute la difficulté, mais quel que soit le sujet, Daniel ouais. Schneerman le disait.
Moi, je me souviens, Sophie, par exemple, d'un sujet sur le boson de Higgs.
Hein. Mais oui, ça doit tenir en une minute.
Il fallait, dans la matinée, le matin.
Voilà,
les gens se réveillent le matin, et il faut que vous leur expliquiez en moins d'une minute, la plupart du temps, un sujet d'une complexité extrême. Donc, comment on fait dans ces cas-là?
On effleure, en fait. Évidemment qu'on ne prétend pas tout expliquer. Alors, on se pose souvent la question et on tord le problème dans tous les sens.
On
met des images, mais avec une ambition assez modeste.
On personnalise parfois aussi, pour faire passer un peu mieux la pilule.
Oui, je me souviens du boson de Higgs et de l'image du périphérique dans laquelle entraient les voitures, comme les particules qui entrent dans les faisceaux. C'est vrai. Mais bon, il faut effectivement donner à voir en très très peu de temps pour que l'auditeur s'imagine et en somme qu'il ait envie d'aller chercher plus loin en une minute que voulez-vous faire.
Est-ce que vous avez plus d'espace en presse écrite, Cyril Hohnlerberg?
En presse écrite, c'est un grand luxe. On a parfois une page entière. Et parfois jusqu'à une journée entière pour préparer la page. Donc non, c'est un peu différent.
Plus l'infographie.
Plus l'infographie, plus des photos. Et maintenant sur le web, donc des animations, des vidéos. Et là, c'est plus facile.
Daniel Schneerman.
Non, mais cette question de l'espace, elle est dépassée maintenant. C'est fini. Puisque maintenant, si vous
avec
voulez...
Avec le web, vous
oui,
dire.
Bien sûr. Avec Internet, le formidable apport d'Internet, parmi d'autres, c'est que les questions d'espace ne se posent plus. Je veux dire, effectivement, voilà, à la radio, il faut faire une minute, une 10, une 20, une 30. Maintenant, je veux dire, les nouveaux youtubeurs scientifiques, par exemple, qui ont un succès considérable, comme y penser, par exemple, qu'on avait reçu dans notre émission Arrêt sur image. Bon, je veux dire, quand ils ont une question à traiter, ils ont la longueur qu'ils souhaitent et ils n'ont aucune contrainte de longueur. Donc, cette contrainte a sauté. Et d'ailleurs, c'est aussi une des remarques qui ont été faites dans l'émission et qui, à mon avis, sont déterminantes, c'est qu'Internet va faire sauter la barrière qui corsetait le journalisme scientifique dans les médias traditionnels, dans certaines limites, dans certaines limites formelles, et on va enfin pouvoir, je dirais, en parler sérieusement.
Est-ce que ça pourrait faire sauter le métier en lui-même?
Non, parce que je pense que...
Parce qu'on voit bien justement avec YouTube que tout le monde peut faire de la science aujourd'hui et tout le monde peut avoir beaucoup de vues en faisant ses propres émissions scientifiques.
Tout le monde, mais là on retombe quand même sur des qualités nécessaires. Tout le monde n'a pas forcément les compétences de fond, tout le monde n'a pas forcément la capacité de vulgariser, la capacité de raconter clairement, de raconter de manière attrayante. Donc je sais pas si ça s'appellera encore du journalisme. Y penser, est-ce qu'il est journaliste? Je sais pas s'il est journaliste, comment on peut l'appeler. Toujours est-il que il fait passer du savoir scientifique.
Il est scientifique.
Il fait passer du savoir scientifique à travers ses...
Il est vulgarisateur.
Il est scientifique et il a les outils en main.
Mais il n'a pas une contrainte qu'on a toujours dans les médias, quelle que soit la taille dont on dispose, l'espace qu'on a, c'est le temps. Donc la contrainte première, c'est le temps d'abord. On a beau avoir toute la place qu'on veut sur le web, le boson de Higgs, avec toute la place que je veux, si je n'ai pas compris le sujet, ça ne va rien changer à mon problème. Donc,
C'est là où nous, on a une chance formidable en télévision, quand on fait du documentaire, c'est qu'on peut parfois mettre un an ou deux ans pour faire un film.
Et vous avez 52 minutes aussi pour présenter un sujet.
52 minutes, typiquement des cas sciences comme la cas science d'Arte, qui est une hebdomadaire, une des rares vraiment instituées. Il y en a d'autres sur d'autres chaînes. Donc là, on a du temps, on a même parfois 90 minutes. On a donc 12, 18, 24 mois, des budgets conséquents, même si on n'est jamais content, mais enfin, c'est quand même des budgets. Et là, tout à coup, on rentre dans une logique que moi, j'avais découverte avec les bouquins, bien après ces années à Europe 1 où on faisait de la minute, comme Sophie à Inter, et tout à coup, on retrouve la possibilité d'aller vers les scientifiques dans leur rythme à eux. Et c'est ça qui leur plaît beaucoup, c'est que tout à coup, on prend le temps avec eux de cheminer, de discuter, de faire une mise en scène comme au cinéma. Un documentaire, c'est proche de la fiction plus que du journalisme dans la mise en scène. Et là, tout à coup, il y a une sorte de rencontre entre le temps du journaliste, en tout cas du documentariste, mmh. et celui du scientifique.
Axel Villard. Mais
quand on parle du journaliste scientifique, on parle quand même d'un cas à part, de quelqu'un qui doit donner des faits d'actualité tout en vulgarisant. Parce que là, on parlait d'y penser, c'est pas un journaliste, c'est quelqu'un qui vulgarise très bien et qui choisit un sujet qui a peut-être parfois 10 ans, qui va construire son texte et vulgariser ce sujet. C'est presque un cours. Alors que le journaliste scientifique, qui est dans la contrainte de temps, lui doit donner des faits nouveaux, parfois les contextualiser, les mettre en regard de la société, tout en vulgarisant, ce qui est complètement différent pour moi... de ce qui se fait sur YouTube.
Sophie Bécherel, vous reconnaissez non, parfaitement dans ce qui vient d'être décrit.
Quand on a la photographie de Philae hier, il est milieu de l'après-midi. Moi, on me demande un sujet pour le soir. Heureusement que j'ai un petit peu de souvenir ouais. de tout ce que j'ai pu comprendre, apprendre et voilà, faire sur Philae pour contextualiser et dire quelque chose de nouveau et de pertinent, je l'espère.
Et nous raconter une belle histoire de doudou. Allez, on se retrouve dans un instant pour la suite de cette discussion sur le journalisme scientifique.
Je ne veux pas d'ennui. Je ne veux plus bâiller. Je ne veux pas de creux de la vague. Je veux le mouvement infini. Je ne veux plus dormir. Je ne veux pas fermer les yeux sur les choses qui m'ont été promises. Sous un orage de mer, je de repos, même la nuit tombée, quand le ciel noir promet que demain sera là, tout a recommencé.
Eh bien, on y va, voilà, c'est en direct et c'est Barba Gallo à l'instant sur France Inter.
La tête. La démarche scientifique, c'est une démarche qui procède par erreur.
Carré.
On n'a jamais une vérité absolue, on se rapproche de la vérité progressivement et on émet des hypothèses qui demandent à être falsifiées justement pour qu'elles soient scientifiques.
Sur France Inter.
Radio, télévision, presse, internet, la place de la science aujourd'hui dans les médias avec les journalistes scientifiques Sophie Becherel, Cyril Vandenberghe, Daniel Schneiderman, Fabrice Papillon et Axel Villard de La Tête au Carré pour en discuter. Quelle est la situation générale justement de la science dans les médias généralistes aujourd'hui, Daniel Schneiderman, et pareil, vous qui avez un œil observateur sur l'ensemble des médias?
Dans le prolongement de ce qu'on disait tout à l'heure, je dirais qu'elle est, c'est une place accessoire. Mais elle est pas, la science n'est pas forcément la plus mal lotie dans les médias généralistes. Je pense qu'il y a, il faut bien voir que dans le journalisme moderne en France, il y a un secteur qui est le secteur roi, c'est le journalisme politique. Le journalisme, je veux dire, il n'y a pas une émission aujourd'hui dans le, sur les chaînes d'info continue qui ne tourne pas de près ou de loin autour d'un sujet unique qui va être la préparation de la prochaine présidentielle avec ses péripéties, ses chausse-trappes, ses pièges, etc. Bon, ça, ça a des raisons historiques très précises. C'est que le journalisme moderne français, il est né au 19e siècle dans l'antichambre du roi. C'était un journalisme de cour qui donnait des nouvelles du pouvoir. Et je veux dire, le à la différence par exemple du journalisme anglo-saxon qui est beaucoup plus un journalisme d'enquête, de faits, de...
Et vous voulez dire quoi, que les choses n'ont pas changé aujourd'hui?
Mais pas du tout. Non mais attendez, regardez qui sont aujourd'hui les directeurs de médias, qui sont les éditorialistes en vue, qui sont les stars du métier. Je veux dire, je sais pas, 3 sur 4 sont des journalistes politiques. Bon, et donc tous les autres secteurs, c'est pas compliqué, hein. Tous les autres secteurs sont à la portion congrue. Alors évidemment, avec des exceptions à droite et à gauche, on est d'accord. Le journalisme international, je veux dire, quelle est la place de l'international aujourd'hui dans les médias généralistes par rapport à la politique, c'est presque rien. Le journalisme culturel est réduit aujourd'hui à la critique. Il n'y a pas d'investigation culturelle, par exemple, sur le secteur du cinéma, sur la littérature. Et Dieu sait pourtant s'il y aurait matière. Et y compris un secteur aussi important que l'économie, je veux dire le journalisme économique aujourd'hui, pour ne pas parler du journalisme social, mais le journalisme économique aujourd'hui est à la botte du journalisme politique. Voilà, donc la science, elle est là-dedans, elle est dans la cour des petits avec les autres.
Alors, on a un message de Nicolas qui nous dit, une des différences entre journalisme et journalisme scientifique, le journalisme non scientifique, c'est peut-être aussi que le journalisme scientifique, pardon, n'a pas fait l'investigation de son sujet, contrairement aux autres journalistes. Vous voulez répondre?
Le
journaliste scientifique n'aurait pas fait d'investigation sur son sujet par rapport aux autres journalistes. Cyril Vandenberghe.
Oui, c'est pas
cher. Défendez votre profession.
Clarifier la question, je n'ai pas compris la question.
Si on considère que faire l'investigation, c'est lire le papier. J'avoue, parfois, je ne l'ai pas complètement lu, mais j'ai appelé le chercheur et j'ai passé une heure avec lui au téléphone pour lui poser des questions et essayer de répondre aux questions.
Il y a toujours un travail d'investigation derrière ce que vous faites, Sophie Becherel.
Oui. En fait, peut-être que le fait de lire beaucoup de publications et d'avoir ce filtre-là, parce qu'effectivement, dans l'actualité, on rapporte surtout les publications les plus récentes. Peut-être c'est ce que veut dire cet auditeur, contrairement. Je ne sais pas.
Bon, comment vous faites le choix des sujets, en tous les cas, Cyril Vandenberghe, pour Le Figaro? Pas de la santé, de la médecine, c'est un cas un petit peu particulier. Pour le reste du champ scientifique, qu'est-ce qui vous décide justement à traiter d'une information et lui consacrer
méthode,
de la place?
La méthode, elle n'est pas du tout scientifique, en fait, pour chercher un sujet. Et mon premier fil,
elle est intuitive.
Elle est vraiment intuitive. C'est qu'est-ce qui m'amuse, qu'est-ce qui me surprend, qu'est-ce qui me plaît.
Et jamais qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui fait du clic?
Alors si. Si, on est aussi présent sur le web et on a toujours une petite clochette qui sonne et qui dit ça c'est un bon
qu'est-ce
sujet.
Qu'est-ce qui marche? Alors c'est quoi un bon sujet justement aujourd'hui?
Alors Philae c'est fantastique. L'espace, le Mars, les rovers Curiosity, ça marche à tous
ça
les
marche
coups.
Toujours, ouais.
Les animaux, les petites bêtes, c'est du requin jusqu'à l'éléphant et le crapaud dans la mare, ça c'est fantastique, ça marche. Ouais. Et là, si vous voulez cartonner, c'est l'extraterrestre, le signal extraterrestre.
Ça marche bien. Par les Russes, par exemple.
Ça, c'est bon. Alors ça, c'est gagné. Alors, pas besoin de travailler, pas besoin de faire de travail d'investigation. C'est du sujet qui clique.
Alors, parmi les sujets.
Excusez-moi, mais vous
très récents.
Pardon.
Allez, on va juste écouter un son d'Aina Schneiderman et puis ensuite on revient sur la discussion, puisque justement, parmi les sujets qui ont très très bien marché ces derniers temps, Proxima B, exoplanète habitable, voilà ce qui s'est passé par exemple sur Euronews.
Proxima B est particulière parce qu'elle est rocheuse comme la Terre et qu'elle est située dans une zone tempérée où l'eau est liquide, explique l'un des scientifiques. Ce qui veut dire qu'il y a un processus qui crée de la vie comme sur la Terre. Et si cette configuration est fréquente dans notre galaxie, alors on peut se demander, y a-t-il de la vie ailleurs dans l'univers, sur une autre planète? Cela pourrait être la plus grande découverte de tous les temps.
Voilà, Proxima B. Alors, quand vous avez vu tomber, justement, l'annonce de cette exoplanète, nouvelle exoplanète, Sophie Becherel, qu'est-ce que vous avez dit ? Encore une de plus ?
Mais où sont les Proximiens ? Ça, je me suis dit, quel tétant-il ? Non, figurez-vous que moi, la rédaction m'a commandé un sujet quand il y a eu une fuite dans Der Spiegel. C'est-à-dire que 15 jours avant, Der Spiegel disait « Ah, d'ici quelques semaines, il y aura une grande annonce autour d'une nouvelle exoplanète. » Donc, vous voyez, on m'a commandé un sujet en
disant, attention,
les
radars
étaient sortis. On sait rien. On sait juste qu'elle est rocheuse, d'une masse à peu près semblable à celle de la Terre, et basta, c'est tout ce qu'on sait.
Il y a eu quand même des précédents aussi, hein, parce que on communique beaucoup sur les exoplanètes.
C'est vrai que les exoplanètes, mais c'est aussi un domaine scientifique extrêmement actif en ce moment. Il y a beaucoup d'équipes qui travaillent là-dessus, donc il y a beaucoup de publications. Donc on passe nos journées à lire aussi des publications là-dessus, à essayer de trier ce qui est vraiment intéressant. Bon, et là, effectivement, comme il y a eu un petit teasing, quand l'information est tombée, voilà, c'était, elle avait pas beaucoup de choses de plus qu'une autre. Simplement, c'est encore une fois une première.
Daniel Schneiderman.
C'est marrant parce qu'en entendant le son que vous avez passé, là, j'attendais le superlatif. Je me disais, à quel moment va venir le superlatif ?
Et on l'a coupé.
Non, vous ne l'avez pas coupé. Il est venu à la fin, la plus grande découverte scientifique de tous les temps.
Ah
donc,
oui,
il fallait forcément qu'il y ait un superlatif.
Là, il y en avait un en l'occurrence qui était la distance de l'étoile à notre Soleil. C'est quand même l'exoplanète la plus proche de notre Soleil.
Ça fait deux superlatifs. Donc, alors,
ça, c'est
là,
un
c'est,
fait.
Là,
ça, c'est quand bingo. Même un fait.
Cela étant, c'est une des questions existentielles. À la télé, par exemple, la cosmologie, les exoplanètes, l'exobiologie, c'est l'un des deux ou trois rares gros sujets qui marchent presque à tous les coups en termes d'audience.
Parce que c'est la recherche de vie ailleurs aussi.
Parce que, exactement, on se projette.
C'est l'idée d'aller, voilà.
Et ça suscite beaucoup de créations graphiques, de 3D, d'images de synthèse hollywoodienne, ce qu'on a de plus en plus comme exigence dans nos documentaires, par exemple. À la télé, c'est fait pour. Et ça permet ce genre de voyage que d'autres sujets beaucoup plus arides ne permettent pas.
Est-ce qu'on arrive, Cyril Van Lerberg, à lutter contre justement la puissance médiatique des agences de communication spatiale? Je pense à la NASA, par exemple, qui est très spécialiste, justement, en effet d'annonce, avec un talent absolu pour grossir des faits qui, même parfois, sont tout à fait démentis par la suite.
On y arrive quand on n'est pas complètement naïf et qu'on n'a pas... qu'on a un peu d'expérience. Mais c'est vrai qu'on sait qu'une fois par an, la NASA nous fait une annonce de vie sur Mars.
Oui, c'est ça.
Ou alors plutôt, après, il faut creuser, c'est plutôt des conditions qui permettent, dans un éventuel réchauffement de Mars, l'apparition de formes de vie qui pourraient... Enfin bon, après on accumule les conditionnels, mais... Ouais. Donc là, le métier du journaliste, c'est d'avoir un peu de bagage.
L'ESA imite aujourd'hui la NASA. Oui. On l'a dit tout à l'heure avec Philae, ils ont fait le même show que la NASA. Ils ont appris auprès de la NASA et ça a fonctionné. Ça a été
parce que derrière, il y a des crédits aussi. Plus on est connu et plus on a des chances d'avoir de l'argent. Alors justement, à la tête au carré, on est très rabat-joie avec Axel Villard sur ces questions-là.
Mais, oui,
parce que régulièrement, on vient casser enthousiasmes.
On essaie de ne pas se faire avoir par la survente de certains sujets. Mais il y a quand même quelque chose qui est important au niveau de la survente des agences de communication, des grands instituts de science, c'est ce millefeuille de survente. C'est-à-dire que le scientifique, pour publier dans un grand journal, va devoir survendre un tout petit peu sa trouvaille qui va être reprise par son service de com, qui
avec
va être un peu plus survendue. Et après, le journaliste qui arrive tout en bout de la chaîne du millefeuille, il va récupérer un paquet de survente et pas du tout de la science qui est le papier, et il va en faire un article qui est souvent que des superlatifs et des conditionnels qui font un bon article raté.
Oui, moi j'ai un exemple récent où c'est la revue scientifique donc de référence qui joue elle-même en fait ce rôle d'amplification en publiant une information dont elle sait avec coup sûr qu'elle n'est pas vraie. Je pense à la soi-disant découverte de formes de vie terrestre datant de 3,7 milliards d'années au Groenland.
Oui, on en a parlé très récemment, c'était la semaine dernière.
Et voilà, et donc c'est très séduisant, ça ressemble à des stromatolites, donc des tapis faits par des bactéries qui vivaient sur Terre, donc à 3,7 milliards d'années, sauf quand on lit le commentaire dans Nature, dans cette revue qui est faite par une chercheuse de la NASA, qui est spécialiste de ces stromatolites, elle met tellement de conditionnels, elle dit cette découverte va faire polémique. On comprend qu'en fait que Nature est pas du tout, ils savent qu'ils ont une pseudo découverte.
Enfin, l'émission sur le sujet après demain. D'ailleurs, jeudi, on parlera des premières formes de vie sur Terre. Ça nous a inspiré justement ce sujet.
Mais encore une fois, je veux dire, ce à quoi vous devez vous confronter, vous tous qui êtes autour de cette table, n'est pas différent de ce à quoi se confrontent vos confrères. Je veux dire, de l'intox, la NASA et l'ESA vous font de l'intox. Mais je veux dire, comme les hommes politiques font de l'intox aux journalistes politiques, comme les grands patrons, les dirigeants de multinationales, ou je ne sais qui, ou même les leaders syndicaux font de l'intox aux journalistes qui les traitent. Mais le boulot du journaliste, après, ça consiste à essayer de gérer ses... essayer de gérer ces intox.
Alors ben justement, on parlera des sujets controversés dans un instant pour voir quelle est la position de journalistes, comme par exemple sur un dossier comme le climat. Et ce sera juste après Zelda et Yves Simon, vos messages franceinter.fr.
Tu rêvais à Chopin ou à Franz Liszt, dans un grand salon de l'hôtel Ritz. Tu écrivais les mots sur un bloc-notes. Tu ressemblais à la Zelda de Scott. Tu portais une cape de Zipline en écoutant Cachemire de Led Zeppelin. Tu portais une cape de Zipline en écoutant Cachemire de Led Zeppelin. Toutes les femmes de la terre étaient là, dans un coin de ta tête de soldat. Angela, Rosa et Virginia, et tant d'autres que je ne connais pas. Tu portais une cape de Zipline en écoutant Cachemire de Led Zeppelin. Tu portais une cape de Zipline en écoutant Cachemire de Led Zeppelin. Tous les mots étouffés par les baillons sont dans les rêves des femmes et les prisons. Plus jamais ne quitteront les villes comme Zelda pour entrer dans un asile. Tu portais une cape de Zipline en écoutant Cachemire de Led Zeppelin. Tu portais une cape de Zipline en écoutant Cachemire de Led Zeppelin. Tu portais une cape de Zipline en écoutant Cachemire de Led Zeppelin. Tu portais une cape de Zipline en écoutant Cachemire de Led Zeppelin.
Yves Simon, dans La Tête au Carré, la question du journalisme scientifique avec mes invités Sophie Becherel, Cyrine Wollnerberg, Daniel Schneiderman, Fabrice Papillon et Axel Villard. Cette question de Sébastien, peut-être pour vous, Cyrine Wollnerberg, pour le Figaro, puisque vous occupez des pages de sciences et médecine. Sébastien nous dit, je suis souvent étonné du traitement réservé aux pseudo-sciences dans les médias, en particulier l'homéopathie, sujet qui n'est jamais vraiment critiqué malgré les nombreuses études sérieuses. Y a-t-il un tabou concernant certains sujets, demande-t-il?
Non, il n'y a pas de tabou, mais parfois la meilleure défense contre les pseudo-sciences, c'est de juste de pas en parler. On sait très bien que voilà, parler d'une chose, c'est en faire la publicité. Mm-hmm. On a beau sortir tous les arguments qu'on veut contre l'homéopathie, dire que les études montrent qu'il n'y a pas d'effet, que c'est pas mieux qu'un placebo, bah, les gens continuent d'y croire et continuent d'en gober ces petites pilules blanches. Donc
vous, votre choix, c'est de ne pas faire d'article sur la question.
Si, s'il y a une étude qui nous dit, absence d'efficacité, ou d'ailleurs efficacité de l'homéopathie, si un jour ça arrive, on en parlera, mais on va pas créer le sujet parce que ça marche pas.
Écoutons l'extrait de cette émission, c'était sur France Inter, interactive en 2010, animée par Nicolas Demorand, sur la question climatique, débat entre Claude Allègre et Yannick Jadot.
Cette partie du livre est pour dire que la période actuelle n'est pas la plus chaude qu'on ait connue, contrairement à ce qui a été donné. Et je maintiens ce Suédois, parmi d'autres, a montré qu'au Moyen-Âge, il faisait plus chaud qu'aujourd'hui. En l'an 1000, il faisait plus chaud qu'aujourd'hui. Premier argument. Deuxièmement, il n'y a pas de liaison entre l'accroissement du gaz carbonique et l'accroissement de température. C'est la deuxième chose. tout ce
c'est
qui
ce que
est dit.
Des milliers de chercheurs.
Ce qui est non, ce conteste pas des milliers de chercheurs.
Un autre élément au débat, on laisse Claude Alec finir sa phrase.
Peu importe des milliers de chercheurs. Il y avait des milliers de chercheurs qui étaient contre la tectonique des plaques quand nous étions deux. Et c'est la même chose. Les milliers de chercheurs. D'accord. La science, ça ne se fait pas parler.
Sauf que vous étiez un spécialiste du sol, vous n'êtes pas un spécialiste du climat. C'est ça toute la différence.
Je vous répète que la science ne se fait pas comme ça.
Voilà. Et ça, c'était en 2010. C'est important de préciser la date parce qu'on a moins entendu les climato-sceptiques à l'occasion de la COP21. C'était Claude Allègre, donc, face à Yannick Jadot. Et la question, justement, de ces sujets controversés. Daniel Schneiderman, vous vouliez réagir?
Je suis pas d'accord avec ce que vient de dire mon confrère du Figaro à ma droite qui dit, finalement, il nous suffit de pas en parler. Parce que ça, c'était une ligne de conduite qui était possible avant Internet. Avant Internet, le journalisme scientifique était limité à un certain nombre de titres de presse présumés sérieux, si vous voulez. Et effectivement, les découvertes, les études, les propos scientifiques qui n'avaient pas d'écho dans ces titres de presse n'existaient pas. Bon, Internet a rebattu toutes les cartes et maintenant, n'importe qui, sur Twitter, sur Facebook, crée son blog et vous explique que effectivement, il n'y a pas de réchauffement du climat.
Alors justement, quelle est la position du journaliste dans ces cas-là aujourd'hui précisément? Est-ce qu'il faut laisser la parole aux climato-sceptiques ou pas?
Elle est très fragilisée. Elle est très fragilisée, d'autant plus que les nouveaux médias, si vous voulez, qui par définition se prêtent davantage à la parole des contestataires, à ceux qui contestent les entre guillemets vérités établies, les mettent en position de force. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux. C'est les climato-sceptiques qui sont dans la position des attaquants et la communauté scientifique qui est dans une position défensive. Donc ça suppose effectivement que le sachant, le journaliste scientifique descende de l'arène, descende de l'estrade sur laquelle il était en surplomb par rapport à cette contestation là. Et je dis pas que c'est facile, hein. Je dis pas du tout que c'est facile, et viennent débattre, réfuter sans cesse.
Donc faut prendre position là.
Pousser
il faut mouiller sa chemise en
tant
que journaliste.
Non, je dis pas ça. Faut débattre.
Quand vous dites contester, réfuter, c'est quand même prendre une position.
Il faut aussi des bons porte-parole, des bons héros. Le vrai problème, c'est qu'un Claude Allègre ou un Courtillot, par exemple, qui faisait vraiment en France le débat des climato-sceptiques, avait une aura extraordinaire et un savoir-parler exceptionnel. Quand vous avez en face des climatologues très sérieux, membres du GIEC, nobelisés depuis, mais qui ne sont pas des professionnels de la parole, même si le journaliste a plein de bonnes intentions et leur donne la parole, c'est très difficile, on le voit dans plein de débats. Et aujourd'hui, il y a une nouvelle génération montante, je pense à Valérie
Masson-Delmotte, qui était avec nous hier.
Exactement, ou encore Aigle Hardy, qui sont des climatologues qui aujourd'hui sont jeunes, pleins d'énergie, savent utiliser les médias et qui commencent à prendre la parole et parler aussi fort qu'un Claude Allègre. D'ailleurs, vous aurez remarqué qu'on les entend beaucoup moins, les climato-sceptiques, depuis que cette jeune génération peut prendre la parole.
Sophie Bécherel.
N'oublions pas que Claude Allègre, c'était un éléphant du PS qui est bien connu pour ses histoires de mammouth, et que quand un journaliste politique, par exemple, cherchait à inviter quelqu'un sur le climat, il tombait sur Claude Allègre, plus cette forte éloquence. Et c'est vrai qu'à l'époque, les journalistes scientifiques avaient énormément de mal au sein des rédactions à expliquer que non, on ne pouvait pas donner la parole à Claude Allègre sans réfléchir à la portée de cette parole et à ce qu'il disait, à la véracité ou pas de son discours. Ouais. Ça a été une époque très difficile. À l'époque, l'Association des journalistes scientifiques a essayé de prendre parti, justement, pour dire, attention, toutes les paroles ne se valent pas sur le climat. Ce que dit l'archive, Yannick Jadot fait remarquer, vous êtes un très bon géologue, mais pas un climatologue.
Voilà. Et
c'est vrai.
Un consensus au sein de la communauté scientifique. Cyril Van Lerberg, pourquoi on a moins entendu les climato-sceptiques avant la COP21? Parce que vous ne leur avez pas donné la parole, justement?
Alors... Peut-être pas, mais enfin, il y a eu aussi la mauvaise nouvelle, c'est Claude Allègre a fait un AVC à l'étranger, donc il est assez affaibli. On l'a pas entendu, je pense, pour cette raison-là. Après, je suis assez d'accord avec Daniel Schneiderman sur le fait que ma stratégie d'autruche, elle marche pas en fait. Elle marche pas avec. Non mais
avec le net, c'est difficile. J'ai
justement un exemple sur la COP21. J'avais quand même pas mal réfléchi et. Et en l'absence justement de paroles fortes des climato-sceptiques, je me dis mais cette fois on va être tranquille. Cette fois on va enfin pouvoir parler des frais sujets, la complexité de la COP, énergie, climat. Et en fait, Philippe Verdier, voilà, chef du service météo de France Télé, qui est sorti de sa boîte et a pondu un livre,
qui lui a valu son
qui a valu son poste. Hein, ouais. Et voilà, et donc on était obligé d'en parler. On était quand même très très loin d'un clone Alec sur le niveau. Là, c'est quand même plus facile.
Est-ce qu'il y a une chance de droite, une chance de gauche, tiens, entre les pages du Figaro, celle de Libération ou de l'Humanité? On a l'impression que vos lecteurs, en tout cas au Figaro, sont plus tolérants sur des sujets, je pense par exemple biotechnologie, nanotechnologie, par exemple OGM, etc., que des lecteurs de l'Huma ou de Libération. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des clivages aussi au sein des sciences?
Franchement, j'ai jamais réfléchi au sujet comme ça, donc je suis pris de court. J'ai pas l'impression.
Moi non plus, j'ai pas l'impression. J'ai l'impression que quand il y a dérive, c'est parce que le journaliste dérape.
Chez les scientifiques, souvent très à gauche, pas toujours, et j'en vois beaucoup, notamment dans ces formations où on parle des médias, quand on leur demande comment vous trouvez les pages du Figaro, ils vous disent « extraordinaire ». Il n'y a aucune idéologie dans le Figaro, dans les pages scientifiques. Ils le disent spontanément. La plupart ne regardent pas la télé, mais ils lisent. Et c'est leur impression.
Pierre Barthélémy, puisqu'il nous a rejoint pour sa chronique dans un instant, vous souhaitiez réagir?
Oui, il faut quand même souligner une chose importante, c'est ce que vous venez de dire, c'est que la science, il y a très peu d'idéologie dans la science, et de ce point de vue-là, on arrive à dépasser tous les clivages politiques, et c'est vrai que ça c'est assez difficile, si on met pas la signature, si on met pas la mise en page, si on met un article du Figaro bien fait, un article du Monde bien fait, ou un article de Libé bien fait, ou de la Croix bien fait,
on pourra pas identifier.
On pourra pas savoir d'où ça vient.
Merci beaucoup en tout cas à tous les six d'être venus discuter de cette question du journalisme scientifique. Daniel Schneiderman, donc on peut renvoyer sur l'émission Arrêt sur image, dans laquelle on pourra retrouver Axel Villard, Philippe Hénarejos, Florence Porcel.
Arrêtsurimage.net.
Il faut s'abonner si on veut découvrir cette émission hebdomadaire, maintenant diffusée donc sur Internet. Merci beaucoup à tous les six et merci aux éditeurs pour les messages qui sont arrivés sur le site de l'émission.
La chronique de Pierre Barthélémy. En partenariat avec le supplément Science et Médecine du Monde.
Et Pierre, aujourd'hui, vous nous parlez de Satan.
Oui Mathieu, figurez-vous que par solidarité avec mes collègues des journaux, des services sociétés des journaux, qui sont obligés jour après jour de traiter d'attentats commis au nom de Dieu, de débats sur le burkini ou de scandales de prêtres pédophiles, j'ai aussi voulu parler du mal et de la religion. Alors comme tout existe dans le magasin de l'improbable, j'ai trouvé une revue scientifique formidable, le Journal pour l'étude du Nouveau Testament, et dans son numéro de septembre, une étude intitulée « Données diaboliques ». Dans notre univers où les données sont partout, est-ce collectées par les agences de renseignement du monde entier qui ont été ravies d'enregistrer le volume de votre postérieur depuis que vous avez commandé des pantalons sur Internet, dans ce monde, il ne manquait plus que les données sur Satan. Alors cette étude veut quantifier la présence du diable dans le Nouveau Testament en recensant toutes les fois où il y est fait allusion. La chose, nous dit-on, n'est pas simple et elle nécessite un total de 32 pages, plusieurs dizaines de références savantes et une bonne centaine de notes de bas de page.
Pourquoi tant de pages, Pierre ?
Eh bien c'est parce que le malin est malin. Il ne se contente pas de se faire appeler Satanas ou Diabolos. Il se dissimule sous des métaphores ou des circonlocutions parfois anodines, car nous le savons tous, le diable est dans les détails. Il faut donc tout décortiquer. Par exemple, Mathieu, une question. Qui la Bible décrit-elle avec l'expression « celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne »
Je sais pas, c'est Satan, par exemple, justement.
Perdu, c'est Dieu. Comme quoi, l'écart entre les deux n'est pas si grand. Au total, les auteurs ont comptabilisé 137 allusions à Satan, soit près de deux fois plus que ce qu'on croyait auparavant, ce qui montre bien que le démon en chef joue l'infiltration des textes les plus saints. On le retrouve derrière des expressions telles que le tentateur, l'adversaire, l'exterminateur, le dieu de ce siècle, moi qui croyais que c'était Facebook, l'ange des abysses ou la puissance des ténèbres. La puissance des ténèbres, ça vous rappelle rien, Mathieu ?
Lord Voldemort, c'est ça ?
Mais oui, Lord Voldemort, le méchant absolu des aventures d'Harry Potter, aussi appelé le seigneur des ténèbres, celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Tout c'est clair maintenant, le gros serpent de Voldemort, c'est le tentateur de la Bible, le sort mortel d'Avada Kedavra. C'est de l'araméen, la langue de Jésus. Et quand Voldemort le lance à Harry Potter dans le dernier opus de la série, qu'est-ce qui se passe ? Harry Potter meurt et ressuscite. Tout c'est clair, je vous dis, on comprend pourquoi la Bible et l'Évangile, selon J.K. Rowling, font partie des meilleures ventes en librairie. Ils racontent la même histoire à faire peur aux enfants avec le même méchant.
Et on retrouve cette chronique dans le supplément Science et Médecine du Monde qui sort aujourd'hui. Quoi d'autre au menu de ce supplément, pas seulement Satan ?
Alors, beaucoup plus sérieux, cette semaine, le grand dossier est consacré à l'utilisation par la médecine de la réalité virtuelle et des jeux vidéo pour lutter contre certaines maladies psychiques.
Voilà, supplément Science et Médecine du Monde, c'est cet après-midi dans les casques. Merci beaucoup Pierre Barthélémy et à la semaine prochaine pour votre chronique de science improbable.